Histoire et gastronomie. La chronique de Jean Vito sur Canal Académie.
Le prix à payer d'une dragonnade normande en 1685. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 fut un épisode dramatique et douloureux de l'histoire de France. Sa promulgation en 1598 par Henri IV, dit Henri le Grand par Ardoin de Péréfix, archevêque de Paris et précepteur de Louis XIV, avait entraîné le retour à la paix civile après les guerres de religion, la disparition de la Ligue ultra-catholique et la restauration de la prospérité. Si Richelieu et Mazarin avaient fait la guerre contre le parti protestant, notamment lors du siège de La Rochelle en 1628, ils n'en avaient pas trop restreint les libertés civiles et religieuses. Par contre, Louis XIV réduisit progressivement les droits des protestants en peau de chagrin et utilisa la contrainte pour les convertir, notamment en utilisant le logement des dragons qui se comportaient en soudards chez les protestants rétifs à se convertir, n'hésitant pas à violer et à tuer parfois, telle était l'idée de Louvois. La révocation de l'édit de Nantes entraîna l'immigration de nombreux protestants qui firent la fortune de l'Angleterre, de la Suisse et surtout de la Prusse naissante. Louis Lacour, en 1857, a retrouvé dans les archives le récit drôlatique d'une dragonnade qui eut lieu en 1685, nous révélant l'appétit prodigieux des officiers de la couronne. Vers le milieu de l'année 1685, l'intendant de l'officialité de l'actuelle Basse-Normandie, M. de Morangis, convoqua les bourgeois et habitants de Caen professant la religion prétendue réformée, comme on l'appelait alors, et nota soigneusement ceux qui ne voulurent pas adhérer à la vraie religion. Le 13 novembre 1685, un régiment du roi entra dans la ville de Caen et l'intendant envoya aux récalcitrants le double de soldats qu'il pouvait loger. Mais certains s'étaient méfiés et avaient émigré. Ainsi, un nommé Michel Néel, sieur de la Bouillonnière, auquel on vouait une vindicte particulière, car il était le gendre d'un pasteur réformé célèbre, le ministre Dubosc, que le roi avait reconnu pour être le plus beau parleur du royaume, car il s'était opposé à lui avec verve lors de la suppression des chambres de l'édit de Nantes. Pressentant qu'on allait lui imposer le logement des officiers du régiment, il avait vendu ses meubles, fermé son hôtel et était passé en Angleterre. Le prévôt et le lieutenant du régiment du roi frappèrent à sa porte, mais ne purent forcer la porte de l'hôtel, la noblesse du sire le leur interdisant. Ils s'installèrent donc dans une auberge voisine, 6 rue des Teinturiers, et dont l'enseigne disait « À l'Aigle d'Or, Catherine Drouard, loge à pied et à cheval ». Ils produisirent un billet indiquant que le prévôt et le lieutenant devaient loger chez le sieur de la Bouillonnière et qu'en cas que la maison ne soit ouverte, ils logeront à l'Aigle d'Or aux frais du dit sieur de la Bouillonnière. La veuve Drouard crut sa fortune venue. Entre le 19 novembre 1685 et le 5 avril 1686, les deux hommes consommèrent pour 1110 livres de nourriture gîte et couvert, somme énorme pour l'époque. La veuve ne fut jamais réglée, et ayant gardé tous les billets de logement des deux hommes, elle écrivit au ministre M. de Châteauneuf, demandant le règlement, s'estimant réduite faute de ce paiement à l'indigence. On ne sait si elle fut réglée, mais il nous reste la liste précise de ce que les deux officiers royaux avaient consommé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux lascars ne s'étaient pas privés. Ainsi, le lundi 20 novembre, ils mangèrent à dîner 5 cartes de vin, un pain, une soupe, un chapon, du bœuf, du mouton, une gélinotte et une douzaine d'alouettes, une fricassée de poulet, une salade de champignons, 12 noix confites, 2 douzaines de biscuits et de macarons, une assiette de poire et de sucre, ainsi que 2 fagots, une bûche et un jeu de cartes. Le mardi 21 novembre 1685, ils consommèrent au dîner 3 pots de vin, un pain, une poularde, 3 perdrix, 1 douzaine d'alouettes, 3 pluviers, une salade, une tourte, 12 biscuits, une assiette de poire et de sucre, 2 assiettes de cerises et de verjus. Le samedi 25 novembre, ce fut à souper deux pots de vin, un pain, deux merlans, un plat d'œuf au lait, un plat d'œuf à la tripe, une salade de céleri de chicorée, 12 noix confites, des cerises et du verjus, des poires, des marrons et du sucre. Parfois, il rajoutait du vin d'Espagne, des bécassines, des épaules de mouton. Seul le carême limita un peu leur appétit pantagruélique. L'analyse de ces repas, dont la liste complète nous est parvenue, nous laisse pantois mais non sur notre faim. Il est certes vrai qu'en théorie, ces deux officiers royaux vivaient aux dépens du dragonnet, sœur de la bouillonnière, mais on peut penser que nos deux sbires n'ont pas pu manger tout ce qui a été facturé, bien que l'appétit de notre époque ne soit plus celui de celle-là. Il est peu vraisemblable que la veuve ait falsifié ses factures face aux officiers royaux. Il est beaucoup plus vraisemblable que nos deux officiers, vivant aux frais du draconnet, aient largement tenu table ouverte et régalé la galerie. Les requêtes de la veuve Drouard nous ont au moins permis de savoir ce que pouvaient manger non pas l'aristocratie et la cour, mais des professions intermédiaires de l'époque, officiers royaux et officiers subalternes de l'armée. Et pour paraphraser Jean de La Fontaine, la lecture des reliefs d'Ortolan dont se régalèrent fort honnêtement nos deux dragons nous permet de mettre une note humoristique sur cette époque terrible des dragonnades.